Bonjour, c'est Verne Dobré, je suis directrice générale adjointe dans la région de Nouvelle-Aquitaine, basée à côté de Poitiers, dans une ville qui s'appelle Limoges. Je me posais la question avec votre présentation, est-ce que vous pensez que donc la présentation, les quatre modèles, si j'ai bien compris, sont à un instant T, basés sur une expérience de terrain, une enquête de terrain, etc. Est-ce que vous pensez que ce qu'on voit en ce moment depuis plusieurs années, qui surprend d'ailleurs les intermédiaires financiers, notamment bancaires, de ce très faible taux, et qui a priori va peut-être durer, est-ce que vous pensez que ça peut remettre en question cette analyse, notamment avec des changements d'acteurs? Je pense à certains acteurs qui peuvent apparaître dans le système alors qu'ils n'étaient pas forcément. Et puis, un changement aussi des risques que prennent les intermédiaires financiers, notamment, ils n'ont plus du tout de marge. Vous parliez tout à l'heure des prêts, etc., mais donc plus de marge financière et... voilà, du coup, il y a peut-être aussi là des changements, un changement de modèle qui peut peut-être apparaître. Voilà, donc c'était la question de regarder peut-être en pluriannualité avec ce qui s'est passé au niveau des taux. Voilà, merci.
Oui, bonjour, Thierry Hem, côté EDF. J'avais une question un peu transverse à tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous nous présentez là, en ouverture, 50 nuances d'intervention d'argent public dans tout ça, et j'avais une question un peu plus ciblée là-dessus, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez des possibilités ouvertes ou fermées, suivant les endroits, suivant les timings, de captation par le public de plus-value foncière sur des projets urbains qui eux-mêmes peuvent être une source de financement d'autres projets urbains ou de même.
Alors, je suis aussi de tenir le temps aussi un peu, c'est ça, moi c'est aussi ma fonction de... Fais attention à pas trop déborder. Alors allez-y.
Oui, simplement, sur une question qui sera peut-être posée plus tard, vous disiez tout à l'heure que l'argent public sera RFI. Pourtant, on entend dire qu'il y a quand même des sources de finances possibles. C'est assez paradoxal. On entend dire ça aussi, c'est qu'il y a des moyens de financement des équipements publics et des ressources possibles de certaines collectivités. C'est vrai que sur ce point-là, on entend dire un peu il y a deux versions. Certains disent qu'il n'y a plus du tout d'argent public. Et d'autres sources d'information, disons que ici, il y a des financements possibles.
Ok, bon, merci pour ces questions. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Qu'est-ce qui favorise le retour des institutionnels dans le logement? Tout d'abord, il y a un excédent de capitaux tout à fait extraordinaire qui cherche des investissements. Donc la pression à l'investissement est très très puissante. Et l'environnement construit n'y échappe pas. Donc il y a beaucoup d'argent à investir, qui contribue donc à créer une recherche. Et puis par ailleurs, il y a des placements qui sont de moins en moins rentables, dans lesquels les institutionnels investissaient. Et c'est notamment, pour le cas de la France, l'immobilier tertiaire, puisque même si il y a une industrie qui a des mécanismes qui tendent à voiler les difficultés de l'immobilier tertiaire. En réalité, on a un marché qui est vraisemblablement en surproduction et qui est obligé de concéder des décotes extrêmement importantes pour trouver des locataires. On peut avoir des franchises de loyer de l'ordre de 2 ans, pas de paiement de loyer pendant 2 ans pour si on prend un bail à 9 ans en ce moment. Donc on maintient les valeurs faciales, hein, les experts évaluateurs continuent de maintenir la valeur faciale des loyers et donc des immeubles pour ne pas dégrader la valeur des biens détenus par les gestionnaires d'actifs, mais par contre la rentabilité est vraisemblablement en train de diminuer très fortement. Et puis par ailleurs, la rentabilité de certains logements résidentiels est en train de s'accroître sous une double pression. Premièrement parce que dans les zones plus tendues, les prix de l'immobilier continuent de monter et que finalement, si ce n'est pas à travers la location, les loyers, ce sera à travers la plus-value qu'on fera, qu'il y a des perspectives de profit. Les fonds d'ampère gestion sur le logement intermédiaire qui autorisent la vente du logement intermédiaire dans 10 à 20 ans sont localisés dans les premières couronnes qui sont en train de se valoriser très fortement. Donc c'est un calcul à la fois sur des loyers, sur des locataires qui ne vont pas faire défaut vraisemblablement, sur des classes moyennes, salariés, biactives, mais par ailleurs, il y a une mise des investisseurs sur la valorisation par la plus-value. C'est aussi lié du coup à des évolutions industrielles. Il y a maintenant des acteurs qui s'efforcent de devenir les interfaces en faisant la gestion de toutes ces locataires pour le compte des investisseurs. Donc il y a aussi une industrialisation qui participe de l'attrait du résidentiel. Et puis enfin, il y a un facteur qui est propre à ces excellents capitaux qui cherchent l'investissement, c'est qu'en fait, les biens peuvent se valoriser, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui frappent à la porte. Et donc même si la demande locative ne suivait pas, il y a des possibilités de plus-value qui sont liées aux stratégies mêmes d'investissement. Et on a donc là... actuellement, certaines études nous informent qu'il y aurait en attente environ 20 milliards d'euros qui seraient prêts à s'investir dans le logement dès qu'il y aura une production en bloc. Et donc, ça peut être soit de la promotion qui arrive à produire en bloc, mais avec des intermédiaires qui font la gestion, soit, évidemment, il y a une cible tout trouvée, c'est les bailleurs sociaux, hein, qui ont déjà les blocs et qui sont encouragés notamment par l'État, le gouvernement à essayer de capter un peu de la valeur foncière. Ça va m'amener tout de suite à la troisième question du coup qui est celle de pourquoi est-ce que les acteurs publics, collectivités, État, SNCF, EDF, bailleurs sociaux n'essaieraient pas un peu de capter la plus-value foncière. C'est-à-dire que dans certains territoires, pas partout en France, hein, loin du tout, hein, il y a une valorisation très forte de l'immobilier et du foncier. Pourquoi ne pas essayer de tirer profit de cela pour réinvestir et conduire des politiques publiques, par exemple de financement de logement social. Ben, les travaux qu'on montre, que l'on a réalisés, qu'on est en train de réaliser, montrent que, bon, effectivement, c'est bien ce que font une partie des collectivités et des acteurs publics de l'État sectoriel, on verra demain avec la SNCF, par exemple, de valoriser leur foncier pour encaisser cette plus-value, ce qu'on appelle la capture de la plus-value, la capture foncière. Et il y a des dispositifs pour le faire qui existent dans l'urbanisme opérationnel, mais ça a des effets, c'est-à-dire que alors que l'on cherche à limiter les effets de la valorisation foncière, par exemple, le fait que la valorisation foncière a tendance à évacuer les populations qui ne peuvent plus supporter la hausse des prix, eh bien, on remet une pièce dans la machine en faisant monter les prix. Et finalement, on se retrouve à financer du logement social en faisant de la capture foncière, mais tout en contribuant à ces processus de hausse de la valeur foncière. C'est pourquoi, dans l'intervention qui vient prochainement, nous aurons l'occasion d'évoquer des dispositifs qui ne visent plus à capturer la valeur foncière, mais à extraire le foncier des relations de marché. C'est-à-dire de lui enlever une valeur, enlever la valeur au foncier. C'est ce que proposent de faire les offices fonciers solidaires, même si leurs évolutions sont tout à fait en suspens, parce qu'il est possible que, mais je ne vais pas déflorer le propos suivant, aient des effets qui soient un peu à l'inverse de ce que je viens d'évoquer. Alors, la faiblesse des taux, donc on comprend bien que c'est quelque chose qui soutient tout type d'agent économique qui souhaite traiter de l'immobilier ou un équipement, une infrastructure comme un actif financier, c'est-à-dire dont on veut tirer un rendement, puisque avec des taux très peu élevés, on peut faire appel à de la dette sans que celle-ci ne prennent beaucoup sur le rendement. Donc c'est pas béni pour tout investisseur des taux comme ceux-là, hein, que ce soit des ménages qui offrent des garanties qui satisfont les banquiers, soit des acteurs des marchés financiers. Donc ça contribue, ces taux très bas, à des processus de valorisation de l'environnement construit, de leur valeur monétaire. Est-ce que ça a contribué à des changements d'acteurs ? Moi j'ai l'impression que ça renforce les acteurs qui ont la capacité de faire du commerce des droits de propriété. Donc si on suit Piketty par exemple, et puis d'autres, hein, les taux bas, ça renforce très fortement l'accroissement des inégalités de richesse et de patrimoine entre les détenteurs de patrimoine immobilier et les autres. Hein, les écarts sont en train de s'accroître très fortement entre les locataires et les propriétaires. Et cette conjoncture de taux bas y contribue. Est-ce que ça soutient d'autres acteurs ? Là, il faudrait qu'on fasse un inventaire ensemble, quoi, parce que j'aimerais bien que vous explicitiez qui ça peut soutenir. On dit que les taux bas, d'une manière générale, travaux d'économistes qui nous disent que ça soutient les modèles économiques les moins forts, hein, ceux qui sont les moins rentables. Ça permet de faciliter des financements, y compris pour les acteurs. C'est ce qu'on pense, c'est logique, puisqu'il y a moins de rendement attendu des investissements. Ça permet donc de financer des projets qui sont, certains diraient, un peu plus patients, qui sont en attente de rendement un peu moins fort. Enfin, il y a des moyens pour financer les équipements publics. Il faudrait qu'on précise là ce que cela veut dire. Il me semble que tendanciellement, les budgets publics, que ce soit les finances publiques centrales ou les finances publiques locales, sont plutôt dans une trajectoire de maîtrise, de contrainte et pas d'expansion formidable. Hein. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'argent public à disposition. Peut-être qu'il y a des circuits ou des politiques publiques auxquelles je ne pense pas. Par contre, qu'il y ait des capitaux tout à fait disponibles pour offrir des solutions de financement aux acteurs publics, et qui sont vraiment massifs, hein, nombreux, ça, oui, ça existe. Et on en verra cet après-midi des fonds d'investissement qui ont financé les PPP. Aujourd'hui, il n'y a plus de PPP parce qu'il y a eu de telles contestations et puis des formes de ré-régulation qu'ils ont rendues moins intéressantes pour les administrations. Mais donc, il y a effectivement une masse de capitaux qui sont à disposition. Ce sont des capitaux, par contre, qui attendent une rémunération. Hein, c'est du capital au sens de l'argent qui attend une rémunération. Contrairement, jusqu'à un certain point, à le capital des contribuables, les contributions d'impôts ou les budgets publics qui, jusqu'à un certain point, attendent peu de rendement. Ce n'est pas toujours vrai quand on voit la manière dont les gouvernements centraux essaient de valoriser leur action, leur part, leur actionnariat, enfin, se comportent comme un actionnaire aussi. Il n'y a pas d'un côté privé et public, hein, ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, l'argent, il y en a peut-être. Il faut voir quelles conditions vont avec ces capitaux, et notamment en termes de patience ou d'impatience de la rémunération.